Virginia Woolf, une femme contre les symboles. Une émission en 7 parties de Viviane Forrester en 1973 avec la voix de Virginia Woolf. Cette nuit, première et deuxième émission, présentation, avec de nombreux témoins, il sera question du Bloomsbury Group, un cénacle littéraire auquel Virginia Woolf a appartenu et de son influence sur la poésie anglaise. Puis l'aventure éditoriale de la Hogarth Press, Virginia et Leonard Woolf, écrivains et éditeurs. Puis il sera question des rapports de Virginia Woolf avec son père, un homme dévorant, après la mort de sa mère, et de la naissance précoce d'une conscience du patriarcat chez Virginia Woolf, la plaie d'une société. Une anecdote, l'étonnement de Henry James. Comment vous écrivez ? Quête d'une écriture à propos du corps, des passions, des interdits qui empêchent les femmes de se connaître.
Words, English words, in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries, words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas. Old words in new orders, so that they survive.
C'est la voix de Virginia Woolf. Virginia Woolf, un écrivain très grand, unique. Des mots, les mots anglais, un pays, l'Angleterre avec des traditions, des castes, une évolution. Un territoire, le langage. Deux dates, 1882 la naissance, 1941 le suicide. Et par-delà les traditions, les événements, la langue, les guerres, les dates, le monde et ses langages, l'écriture des paysages, la durée des éléments, le temps non cloisonné. Un écrivain, Virginia Woolf, l'un des plus grands de ce siècle, une femme, insérée dans son époque, dans son milieu social, mais aux prises avec la folie. En lutte contre certains tabous, sans nul doute un précurseur du mouvement de libération des femmes. Éditeur aussi, critique littéraire logique, implacable, pamphlétaire efficace, auteur célèbre, mondaine même, militante socialiste. Mais surtout, il ne faudra pas l'oublier, lieu d'un travail de création, ouvrière de ce travail, acharnée, de la race des Proust, des Flaubert, et que n'arrêtera pas le danger mental représenté par chacun de ses livres et qui fonçait au-devant de ce danger. Nous la connaîtrons professionnelle, intellectuelle, brillante, jalouse d'autres écrivains, mais éditeur convaincu des auteurs qu'elle défend, luttant pour la liberté des femmes et protégée comme le furent peu d'entre elles par un homme, Leonard Woolf, son mari. Nous la verrons en proie aux fantasmes, cuisinant du haddock, s'opposant au nazisme, privée des enfants qu'elle ne désirait pas, et sans doute plus sensuelle que sexuelle. Nous connaîtrons son emprise sur les autres, l'emprise de sa classe sur elle et de l'histoire. Nous entendrons son neveu, ses amis, se souvenir d'elle. Nous suivrons sa lutte constante, pathétique, pour garder la raison. Mais il ne faudra pas oublier l'œuvre qui tout ce temps puisait en elle son énergie et prenait forme, par-delà les symboles au sein desquels elle vivait, contre lesquels parfois elle s'acharnait. L'eau, la femme, la lettre, le père. Le sexe avec ambiguïté, les heures, la nourriture, les demeures, la mort, les mots. Les mots.
Words, English words, in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries, words belong to each other.
Il est impossible, sinon sur le plan littéraire, de séparer Virginia de son mari, Leonard Woolf, lui-même économiste, éditeur, historien, passionné de politique et de jardinage. Auteur de 18 essais politiques importants, il semble avoir d'abord rêvé d'être romancier. Mais après 3 romans, il s'efface devant Virginia. Et malgré ses nombreuses activités, il va consacrer sa vie à veiller sur sa femme, sur la santé, sur l'œuvre de sa femme. Écoutons sa voix.
And she was one of the few people I had ever met whom I think was a genius.
Elle était, je crois, elle était naturellement un être extrêmement compliqué, un des rares êtres que j'ai pu rencontrer et dont je crois qu'ils étaient des génies. Les gens qui sont des génies sont un peu plus compliqués que les autres. Je crois avoir rencontré deux génies dans ma vie. L'un était George Moore, le philosophe. L'autre était ma femme. Elle avait une façon parfaitement naturelle de penser, de parler et de regarder les choses et de vivre. Mais aussi, par moments, elle avait une vision des choses qui ne ressemblait pas à celle de la plupart des gens. Ensemble, Leonard et Virginia Woolf règnent sur le célèbre groupe de Bloomsbury, alors le centre de la vie intellectuelle artistique en Angleterre. Ensemble, ils fondent dans leur salle à manger la Hogarth Press, dont ils feront l'une des plus importantes maisons d'édition anglaises. Ils militent pour les mêmes idées. Virginia suit avec intérêt les activités du Parti travailliste, elle assiste aux réunions publiques où Leonard prend la parole, et elle milite, sans grande efficacité semble-t-il, à la Ligue du travail féminin. Son étude sur les phénomènes fascistes et nazis en fonction du problème des femmes est certainement due à sa familiarité avec les problèmes politiques de son temps. Mais lui est due aussi la profonde poésie de ses romans, liée à sa connaissance à tous les niveaux de l'insertion, de l'inscription des êtres et de la société au monde. Et surtout, ensemble, Leonard et Virginia Woolf mènent contre la terrible maladie mentale de Virginia ce combat qui permettra à une œuvre essentielle d'exister. Un combat permanent, lucide, souvent dramatique, et dont l'issue sera le suicide. Mais entre-temps, il y aura eu 22 livres écrits, dont Mrs. Dalloway, La promenade au phare, Les vagues, Entre les actes. Et aussi, une vie harmonieuse, à la fois brillante et profonde. Pourtant, être intellectuel en Angleterre, au sortir de l'époque victorienne, tient du sacerdoce. Penser n'y est guère recommandé, penser librement, à peine imaginable. On opère au sein d'un réseau de codes, de bonnes manières, de conventions, ancrées dans les vies au point de tenir lieu de destin à certaines d'entre elles. Et cela, à tous les échelons d'une société monarchique, hiérarchisée, très cloisonnée. Chaque classe, chaque cellule a ses traditions, ses valeurs, mais toutes participent d'un système régi par des siècles de conformisme. Opposé à cette pétrification, le groupe de Bloomsbury en est aussi un exemple. Le mois dernier à Londres, le neveu de Virginia Woolf, Quentin Bell, qui vient de publier sur sa tante une biographie déjà célèbre, le grand poète Stephen Spender, ami de Leonard et de Virginia, John Lemon, à qui fut adressée la lettre à un jeune poète de Virginia Woolf, nous parlait de Bloomsbury. John Lemon, pourriez-vous nous dire ce qu'était le Bloomsbury Group?
Alors, le Bloomsbury Group était un groupe de jeunes hommes, d'abord, n'est-ce pas, qui se trouvaient à Cambridge. Tous les membres de Bloomsbury étaient fort intelligents et admiraient l'un l'autre beaucoup, n'est-ce pas. Il avait d'abord Desmond Mackenzie et Leonard Woolf lui-même, n'est-ce pas, et Lytton Strachey, et plus tard Clive Bell et des autres.
Les autres? Par exemple, T.S. Eliot, Catherine Mansfield, Bertrand Russell.
Le groupe de Bloomsbury a eu une grande influence sur toute la vie artistique de Londres et d'Angleterre. Vous savez, parce qu'il y avait Roger Fry, qui était un grand, qu'est-ce qu'on peut dire, kunsthistoriker, n'est-ce pas? C'est lui qui a introduit les post-impressionnistes au public anglais. Et alors, il y avait Desmond Mackenzie qui était un très grand critique, surtout dramatique, n'est-ce pas? Et il y avait Maynard Keynes, qui était, comme vous le savez, un des plus grands économistes de notre époque, et Lytton Strachey, un des plus grands écrivains et biographistes.
Oui, c'était en fait un groupe avec des personnalités très diverses et plus diverses que, par exemple, le groupe de l'ANRF
oui,
en France.
Il me semble, oui.
Et politiquement, est-ce que le groupe de Bloomsbury, je crois, avait des idées très avancées pour l'époque et en tout cas des idées très libérales?
Vous savez, je pense que les idées de Bloomsbury étaient surtout des idées philosophiques. Le grand philosophe J.F. Moore, il s'appelait, n'est-ce pas, les avait influencés beaucoup. Dans la politique, je pense que presque tous commençaient par être des socialistes ou des adhérents du Labour Party quand ça a commencé, n'est-ce pas? Mais c'était, pour Leonard Woolf, c'était très important, ça, n'est-ce pas? Mais pour les autres, moins important, il me semble.
Virginia Woolf, Quentin Bell, semble avoir été, avec son mari Leonard Woolf, au centre du groupe de Bloomsbury. Et ce groupe était, je crois, lui-même au centre de la vie intellectuelle et artistique à Londres entre les deux guerres.
Bloomsbury apparaît plus tôt, ça apparaît avant la guerre, mais plutôt comme un groupe qui n'était pas connu, qui n'avait pas beaucoup publié, mais comme un groupe, comment dirais-je, révolutionnaire.
Révolutionnaire.
Oui. Révolutionnaire du point de vue esthétique plutôt que politique.
Oui, mais du point de vue politique aussi, je crois que la plupart des membres avaient des idées très avancées, des idées pacifistes pendant la Première Guerre, et puis ensuite des idées quand même...
Oui, pendant la guerre.
Très libérales, en
oui,
tout cas.
Oui, libérales toujours, mais libérales... comme on dit en anglais avec un petit L, c'est-à-dire pas un parti politique,
non,
mais des idées libéraux.
Professeur Spender, actuellement, est-ce qu'il y a un mouvement comparable?
Non, je ne crois pas, parce que Bloomsbury dépendait des gens de moyenne classe avec de la loisir et un peu de l'argent et des domestiques,
oui,
et des maisons agréables dans la campagne. Et c'était tout ça, c'est sur un plan très modeste, mais quand même ça existait. Par exemple, Virginia Woolf et Leonard Woolf ont une, et Vanessa Bell, Roger Fry, ils ont tous ont des maisons dans la campagne et une petite maison à Londres, et comme ça, n'est-ce pas? Ils ont voyagé beaucoup. Ils ont fait des choses qui dépendent du loisir et un peu de l'argent, n'est-ce pas? Des rentes, je crois.
Tous les membres du groupe de Bloomsbury, sauf peut-être Leonard Woolf, mais il était à Cambridge lui aussi, sont issus des classes dirigeantes. Certes, leur esthétisme leur permet de rompre avec l'austérité victorienne, un certain goût de la délectation, leur refus des préjugés, mais un frein au puritanisme ambiant. Une insatiable curiosité leur fait introduire en Angleterre l'avant-garde européenne. Après la peinture post-impressionniste, le cubisme, les ballets russes, les penseurs allemands. Mais il s'agit d'un nouveau savoir-vivre, plus que d'une révolution. Le style y est désinvolte et sérieux, un peu bohème, mais toujours de bon ton. On tient des propos libres, on emploie des termes crus, mais avec un accent aristocratique et dans des demeures très traditionnelles. Malgré des opinions politiques libérales, c'est encore une fois un clan, très fermé. En fait, une caste au sein d'une caste. Le cas de D. H. Lawrence, fils de mineur, est significatif. Il reflète une certaine lutte de classe.
Je crois que dans la conscience de Lawrence,
oui,
c'était là la lutte, qu'il voyait des gens comme Bertrand Russell et Keynes comme les membres d'une élite. Il les a rencontrés d'ailleurs à Cambridge, où on avait certainement à cette époque le sens d'une élite qui... qui reçoit non seulement l'enseignement, mais aussi toutes sortes de privilèges. Oui. Mais pour le reste, il a très peu vu Bloomsbury. Il ne connaissait pas, il ne connaissait ni mon père, ni ma mère, ni Virginia Woolf. Je crois qu'on a inventé une lutte qui n'existait guère que dans l'imagination de Lawrence lui-même.
Oui, mais enfin, ils ne se connaissaient pas, peut-être parce qu'aucun des deux n'avait envie de rencontrer l'autre, ou est-ce qu'il y avait un ostracisme de Bloomsbury relativement à D.H. Lawrence, ou au contraire un recul? Il est vrai que D.H. Lawrence ne vivait pas toujours en Angleterre. Et
quand il vivait en Angleterre, et il voyait des gens un peu différents. C'était oui. toujours proche, mais il y a tant de petits cénacles oui. dans la société anglaise que c'est assez facile de ne pas rencontrer des autres intellectuels. C'est très étrange dans le cas de Virginia Woolf, parce que tous les deux connaissaient Catherine Mansfield.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai. Ils ont échangé deux lettres à propos d'une maison à louer, et c'est tout.
C'est tout naturellement que Lawrence n'a pas sa place à Bloomsbury. Qui garde ses distances? En tout cas, la distance est infranchissable et l'intolérance mutuelle. Virginia connaîtra d'autres horizons que Bloomsbury, mais surtout parce que son mari, Leonard, ne provient pas, comme sa famille à elle, les Stevens, des classes privilégiées.
Si je faisais partie, comme mon père avant moi, des classes libérales, c'est récemment que nous avions fait notre chemin jusqu'à elle, rompant avec un statut de boutiquier juif. Nous n'y avions pas nos racines. La psychologie des différentes couches de la société anglaise est extrêmement importante, ou du moins l'était il y a 50 ans, quant à ses effets sur l'individu. Les Stevens, les Strachey, les Sacquerays vivaient avec un enchevêtrement compliqué de racines et de vrilles qui s'étendaient de tous côtés à travers les classes libérales supérieures, les familles terriennes et l'aristocratie. Socialement, elles assumaient subconsciemment des choses que je n'aurais jamais pu, consciemment ou inconsciemment, assumer. Ils vivaient dans une atmosphère particulière d'influence, de bonne manière, de respectabilité, et qui leur était naturel comme un des mammifères l'air ou des poissons, l'eau.
Les Stevens, pour Virginia, c'est d'abord son père, Sir Leslie Stevens, un humaniste un peu excentrique, déjà très âgé à la naissance de Virginia. Il est l'auteur renommé d'un essai sur la libre pensée et d'une histoire de la pensée anglaise au XVIIIe siècle. Il a vécu, lui aussi, entouré de penseurs, d'écrivains, de poètes. Il a été de ces Anglais passionnés d'alpinisme qui sillonnaient et gravissaient les Alpes en pionniers à la fin du siècle dernier, et l'un des fondateurs du très fameux Alpine Club. Son immense bibliothèque, il l'a ouverte à Virginia. Elle y a puisé sans aucune restriction, sans aucun contrôle. Il l'a encouragée à écrire, comme il a encouragé son autre fille, Vanessa, à devenir peintre. Mais selon la tradition, Virginia et Vanessa n'auront pas droit à une éducation universitaire. Et ceci au contraire de Thoby et de Adrian, leur frère. Virginia ne l'oubliera jamais. À l'égard de ses parents, ses sentiments sont complexes et cependant comme toujours lucides. Enfant, à la mort de sa mère, elle connaît une première et très grave crise dépressive. Elle tente de se jeter par la fenêtre. Et pourtant...
Je me rappelle m'être détournée du lit de ma mère lorsqu'elle venait de mourir et que Stella nous avait menés près d'elle. Et j'avais ri en secret au sujet des pleurs de l'infirmière. Elle fait semblant, ai-je dit. J'avais 13 ans et je craignais de ne pas souffrir suffisamment.
Veuve, Leslie Stephen devient amer, plaintif et pèse sur la vie de ses filles. Il est autoritaire, exclusif, exigeant. Virginia s'en souviendra bien après sa mort.
L'anniversaire de mon père. Il aurait eu 96 ans, oui, aujourd'hui. Il aurait pu avoir 96 ans, comme d'autres gens que l'on a pu connaître. Mais grâce au ciel, il ne les a pas eus. Sa vie eut entièrement mis fin à la mienne. Que serait-il arrivé? Pas d'écriture, pas de livre. Inconcevable.
Cette figure du père l'obsédera. Et par exemple, tout au long de Trois Guinées, un ouvrage polémique très révolutionnaire, un réquisitoire très précis contre la ségrégation des femmes, elle nomme ces femmes qu'elle défend si bien, non pas des femmes, mais des daughters, des filles, comme si la relation à l'homme ne pouvait être que filiale. Daughters of cultivated men. Des filles, dit-elle, d'hommes cultivés. Être la fille d'un père semble l'unique statut. Et le patriarcat, cette tyrannie, a bien le visage de Leslie Stevens. Et cependant, longtemps, Virginia Woolf sera pour certains, comme pour Henry James, la fille de Leslie Stevens.
Nous avons pris le thé avec Henry James aujourd'hui. Il me dévisageait de ses yeux vides et fixes, un peu comme des billes, et il m'a dit, « Ma chère Virginia, on me dit que vous, en fille de votre père, ni en petite fille de votre grand-père, la descendante, puis-je dire, de bien des siècles de plumes et d'encre, encre, encrier. Oui, on me dit que vous, en bref, que vous écrivez. » Cela se passait dans la rue, et nous attendions là tous comme les fermiers attendent que leur poule ponde un œuf. Nous étions polis, nerveux, et nous nous dandinions d'un pied sur l'autre. J'avais l'impression d'être une condamnée, et le couperet tombait lentement. Jamais aucune femme n'a détesté l'écriture autant que moi. Mais lorsque je serai vieille et célèbre, je discourrai comme Henry James.
Un peu plus vieille, célèbre, elle dira simplement...
Et je pense en moi-même, tout en marchant le long de Southampton Row, voici que je vous ai donné un livre nouveau.
Marcher dans les rues de Londres l'enchantera toujours.
Londres est enchanteur. Je sors, et c'est aussitôt comme un tapis magique. Et me voilà transportée au sein de la beauté sans avoir levé le petit doigt. Les nuits sont surprenantes, avec tous ces portiques blancs et les avenues larges et silencieuses. Les gens entrent et sortent, légers, alertes comme des lapins. Et j'ai pris Southampton Row, humide comme le dos d'un phoque, au rouge ou jaune de soleil. Et je regardais les omnibus aller et venir, et j'écoutais les vieux orgues de barbarie détraqués. Un de ces jours, je vais écrire à propos de Londres. Et comme la vie y est prise en charge et transportée sans effort, les visages qui passent me stimulent, m'empêchent de me figer, comme le fait le calme de Rodmell.
Rodmell, c'est la campagne où les Woolf ont une maison, et c'est aussi le bonheur très souvent. Le paysage est essentiel à Virginia Woolf. Elle semble y participer sans paroi entre son corps et le monde. Nous verrons plus tard l'importance de la mer, des rivières, de l'eau dans son œuvre et dans sa vie. Cette vie qu'elle aime, qu'elle sait aimer avec une telle intensité, lorsqu'elle n'est pas en proie à la dépression.
Ainsi les jours passent. Et je me demande parfois si l'on n'est pas hypnotisé, comme un enfant par un globe d'argent, par la vie. Et si c'est vivre, cela? C'est très rapide, brillant, excitant, mais peut-être superficiel. Je voudrais prendre le globe dans mes mains et le palper tranquillement, rond, lisse, lourd, et le porter ainsi, jour après jour.
Pourtant, les événements majeurs de sa jeunesse sont des deuils. Après son père et sa mère, sa demi-sœur Stella meurt. Et puis très jeune, son frère Thobe, dont le souvenir ne la quittera jamais. Bientôt, Vanessa, si proche d'elle, épouse Clive Bell. Ils ont des enfants et Virginia se sent un peu abandonnée, exclue. Mais cette impression va plus loin. À lire certaines de ses lettres, alors, on se souvient de Rhoda s'écriant dans les vagues.
Je suis seule dans un monde hostile. La face humaine est atroce.
Elle écrit aussi à Vanessa qu'elle ne peut plus écrire, que des démons surgissent, noirs et velus, qu'elle a 29 ans et qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est une ratée, sans enfant et folle aussi, et pas un écrivain.
À présent, tout ce que je demande à quelqu'un, c'est qu'il me rende véhémente. Et alors, je les épouserai.
Leonard Woolf ne l'a sans doute pas rendue véhémente, mais il lui a permis d'assumer sa vie, de créer son œuvre, en fait, de vivre son essentielle véhémence. Il est souvent question des tendances homosexuelles de Virginia Woolf, de ses amitiés féminines, parfois mais timidement amoureuses. On se réfère à son roman Orlando, Orlando qui traverse les siècles, tantôt homme, tantôt femme, et dont le modèle était Vita Sackville-West, la meilleure amie de Virginia, qui écrivait aussi.
Hier, j'ai pris le thé chez Mary et je voyais passer les remorqueurs aux lumières rouges et j'entendais le chuchotement du fleuve. Mary en noir avec un collier de feuilles de lotus. Si on pouvait être amie avec les femmes, quel plaisir. Les rapports si secrets, si intimes, comparés aux rapports avec les hommes. Pourquoi ne pas écrire là-dessus en toute franchise.
Il est certain que pour Virginia Woolf, rien n'était cloisonné, clôturé, défini. Ni le temps, ni l'espace, ni la relation entre les sexes. Elle ne tenait pas compte des catégories et vivait d'ailleurs sans aucune ostentation dans un univers libre, dans sa propre grammaire et dans ses propres genres. On a dit aussi qu'elle était froide, insensible, hostile même à son propre corps. Comment le croire en la lisant ? Tout au long de son œuvre, de sa vie, Virginia capte les parfums, l'écume de la mer, l'air, l'élan des corps vers le monde et ses pulsations. Ne faut-il pas accepter Virginia Woolf, modèle de Virginia Woolf, au lieu de lui opposer des schémas académiques quelconques et de s'étonner si elle n'y adhère pas ? N'est-ce pas à nous d'accepter ses valeurs, ses hiérarchies, son sens à elle, par exemple, de l'érotisme, même s'il se fixait parfois sur une goutte de pluie glissant sur une vitre, même si tous ses plaisirs, ses bonheurs, s'absorbaient aussitôt en son œuvre. Leonard Woolf l'acceptait, il protégeait sa liberté. Et c'est dans un geste de protection qu'il fondera avec elle, en amateur d'abord, les éditions Hogarth. Lorsque Leonard et Virginia Woolf achètent une presse typographique et l'installent dans leur salle à manger, ils sont loin de se douter que l'une des plus grandes maisons d'édition anglaise vient d'être fondée. Leonard pense qu'une occupation précise, manuelle, distraira Virginia de ses travaux abstraits, de ses rêveries spéculatives, de ses recherches incessantes, et tout en la maintenant dans ce monde du livre où elle respire mieux. Il espère qu'une approche du livre en tant qu'objet neutralisera les fantasmes de la création et préviendra de nouvelles crises dépressives. L'entreprise fascine aussitôt Virginia et bientôt, grâce à la notice explicative livrée avec la machine, un premier opuscule sort de la presse. Il s'intitule « Deux histoires éditées et imprimées par Virginia Woolf et Leonard Woolf ». Il porte déjà la mention « Hogarth Press ». Hogarth est le nom de la maison qu'habitent alors les Woolf à Richmond. Les histoires, ce sont « La marque sur le mur » de Virginia Woolf et « Trois juifs » de Leonard Woolf. Les 150 exemplaires sont vite épuisés et Leonard, Virginia poursuivent leur expérience et parmi les tout premiers auteurs de ce qu'il faut déjà appeler un catalogue, on trouve les noms de Catherine Mansfield, T.S. Eliot, Gorky et Rilke. T.S. Eliot n'avait encore publié qu'un poème et dans une revue. La Hogarth Press, qu'il a presque découvert, demeurera son éditeur.
Lorsque nous avons connu Tom, nous l'avons tout de suite aimé. Mais nous étions tous deux un peu effrayés par lui. Il était très précis, guindé, circonspect et même inhibé. En fait, Il nous avait d'abord désappointés. Et même son esprit, qui semblait réellement plus rigide et moins puissant que ses poèmes, ne le faisait espérer. Il en était conscient car, en décrivant un séjour chez d'autres amis, il nous dit « Et je me suis conduit comme un petit imbécile, poseur et pompeux. » De 1920 à 1923, Tom Elliott vint habiter plusieurs fois chez nous à Rodmel. Et nos relations avec lui changèrent profondément pour devenir vraiment intimes. Mais je ne crois pas que cela soit dû à des relations plus étroites. Je crois que Tom lui-même avait changé. Changé comme on change après le premier cri au sortir de la matrice de sa mère, à la vue de la cruelle lumière du jour et des visages de l'infirmière et du docteur. Les progrès de notre intimité apparaissent dans le journal de Virginia, qui se demandait bientôt « Et qu'en est-il d'Eliot ? Deviendra-t-il Tom ? Qu'en est-il de ses amitiés qui débutent à l'âge de 40 ans ?» À la fin de l'année, nous l'appelions Tom. Et Virginia notait avec regret qu'il ne l'effrayait plus.
Ses débuts dans l'édition se révèlent prometteurs. Il y a là, pour ces deux écrivains, une réponse à leur désir de ne pas vivre seulement à l'écart, dans un milieu privilégié, de dépasser par la praxis la difficulté d'être intellectuel, highbrow, en Angleterre alors, de dépasser les contradictions entre une vie assez aristocratique, fort traditionnelle, et des aspirations, des convictions socialistes. En Angleterre, alors, il n'y a pas, comme en France, de ces cafés, littéraires ou non, de ces lieux de rencontres libres, spontanés, où viennent se mélanger toutes sortes d'écrivains, d'artistes, avec toutes sortes d'autres gens. Un groupe relativement éclectique, comme Bloomsbury, n'a aucune chance de beaucoup s'élargir, de trouver des ouvertures nouvelles vers des individus ou sur des courants d'idées. On se rencontre les uns chez les autres en des demeures très classiques, ce qui implique un choix, une limitation, des invitations même. Bloomsbury ne fait qu'augmenter cette impression de vivre dans une tour d'ivoire. Et pour Léonard, qui instinctivement se sent extérieur à ce milieu, pour Virginia, qui instinctivement éprouve la nécessité d'une relation plus immédiate aux êtres, aux choses, il y a là tout un domaine à la fois personnel et lié à ce monde du travail, de l'échange économique, qui leur fait défaut. Et puis surtout, ils vont pouvoir diffuser les œuvres qui leur paraîtront essentielles et que d'autres refuseraient de prendre en charge. Virginia Woolf est d'abord une romancière, encore qu'elle n'aimait pas le terme de roman appliqué à ses œuvres. Mais elle est aussi critique, et critique passionnée. Désormais, elle assumera souvent la responsabilité de ses jugements à tous les niveaux, et plus tard, lorsqu'elle quittera son éditeur pour la Hogarth Press, la responsabilité de ses propres livres. Bientôt, la plupart des ouvrages seront confiés à des imprimeurs, mais la Hogarth Press continuera de fabriquer certains des ouvrages. Et longtemps encore, des livres seront imprimés dans la salle à manger, reliés dans le garde-manger, imprimeurs, relieurs, auteurs seront reçus au salon. Virginia pourra suivre en détail le chemin de chacun de ses livres.
Nous avons trouvé la table du hall ensevelie sous des piles de commandes pour Kew Garden. Il y en avait même jusque sur le sofa. Et nous les avons décachetées pendant le dîner, entre les plats. Et je regrette d'avoir à dire que nous nous sommes disputés, car nous étions énervés tous les deux, agités par des courants contraires. Toutes ces commandes, environ 150, et provenant de librairies et de particuliers, sont dues à un article du supplément littéraire du Times. Et dire qu'il y a 10 jours, j'envisageais stoïquement l'échec. Le plaisir de ce succès a été considérablement gâté. D'abord par notre querelle, ensuite par la nécessité de préparer 90 nouveaux exemplaires, d'en couper les couvertures, de rédiger les adresses, de coller les étiquettes, de cacheter les enveloppes, et finalement de les expédier.
On ne soulignera jamais assez comme Virginia Woolf, si souvent taxée de snobisme, d'idéalisme, est l'un des rares écrivains à avoir connu ses livres jusqu'à la trame. Elle en était responsable avec Léonard, depuis le choix du papier, des caractères typographiques, jusqu'aux problèmes de tirage et de diffusion. Elle en prenait avec son mari tous les risques financiers, et l'entreprise n'avait au départ aucun capital. toute sa vie et jusqu'à ses derniers jours, elle lira des manuscrits. Et avec quelle conscience, quel intérêt? On peut se demander si beaucoup d'écrivains ont pénétré aussi totalement les circuits économiques et techniques de leur profession, si beaucoup d'entre eux ont accompli autant de besognes, de tâches dites humbles, mais qui ont permis à Virginia Woolf d'avoir une connaissance physique du livre. Ses mains ont manié les caractères d'imprimerie, palpé les papiers. Elle a souvent parcouru les rues de Londres pour transporter des colis, déposer de librairie en librairie des ouvrages dont son corps éprouvait alors le poids véritable. Même lorsque la maison prendra un caractère plus orthodoxe, Virginia, alors au sommet du succès, continuera de travailler à la Hogarth. Et John Lehman, entouré de ses livres, de ses grands chiens, dans sa très belle demeure à Londres, nous racontait ses relations, que l'on devine amicales et orageuses, avec Leonard Woolf.
Je pense que tous les jeunes hommes qui sont venus au Hogarth Press, n'est-ce pas, avant moi, il y avait 4 ou 5, n'est-ce pas, ont trouvé cette nervosité très difficile. Et il y avait une espèce de jalousie, comme si le Hogarth Press était l'enfant qu'il n'avait pas eu. Et alors, cette jalousie et cette nervosité se déclaraient pas au commencement, mais plus tard, n'est-ce pas? Et ça faisait la vie très difficile.
C'est-à-dire quand le nouveau venu commençait à vraiment connaître et s'intéresser
à vraiment connaître et vouloir faire des décisions lui-même.
Et c'était sur quel plan Virginia Woolf prenait-elle des décisions?
Elle lisait tous les manuscrits littéraires. Leonard les lisait aussi, mais il lisait les manuscrits politique, économique, mais elle ne les lisait pas. Alors, ce qui arrivait quand il y avait un nouveau manuscrit de poème, n'est-ce pas, d'un jeune homme ou d'une jeune fille, Leonard le lisait, Virginia le lisait, alors moi je le lisais, n'est-ce pas.
Et il fallait que vous soyez tous les trois en accord pour
en
que
accord,
ce soit publié.
Oui, c'est ça. Je les trouvais tous les deux très faciles à convaincre au commencement. C'était après la mort de Virginia Woolf que les difficultés ont commencé avec Leonard.
Comme toutes les maisons d'édition, la Hogarth Press connaîtra des problèmes, commettra des erreurs. Le refus du manuscrit de James Joyce, Ulysse, en est une et d'envergure.
À la fin de 1917, Tom nous dit que Miss Weaver, qui avait publié un de ses ouvrages dans la revue L'Égoïste, était très préoccupée d'un manuscrit de James Joyce qu'elle détenait. Tous deux jugeaient remarquable cette œuvre. Mais elle était indécente et l'on doutait fort qu'elle puisse être publiée en Angleterre. Il nous demanda si la Hogarth Press pouvait l'envisager, ou du moins en discuter avec Miss Weaver. Miss Weaver vint prendre le thé le 14 avril 1918. Elle apportait un énorme paquet brun contenant le manuscrit d'Ulysse par James Joyce. Mais pas tout Ulysse, car James Joyce était encore en train de l'écrire. Elle nous laissa le manuscrit et nous avons rangé ce paquet de dynamite dans notre salon, dans un tiroir du bureau.
Et voici la même visite racontée par Virginia.
Mais presque aussitôt, Miss Weaver apparut. Là, nos prédictions se révélèrent entièrement fausses. J'ai fait de mon mieux pour l'aider à se révéler et ressembler à ce que l'éditeur de L'Égoïste se devait d'être, mais elle est demeurée inaltérablement modeste, judicieuse et solennelle. Son costume mauve, assorti à son âme et à son corps, ses gants gris à sa rectitude. Peut-être la pauvre femme était-elle pénétrée du sentiment que le contenu du paquet marron ne correspondait guère à ce qu'elle-même renfermait. Aucune conversation ne fut possible. Mais alors, comment est-elle entrée en contact avec Joyce et le reste? Comment leurs propos orduriers sortent-ils de sa bouche? Dieu!
Nous avons lu le manuscrit et décidé de le publier si nous parvenions à trouver un imprimeur qui consente à l'imprimer.
Alors, ils ont cherché un imprimeur.
Quentin Bell.
Ils sont allés à plusieurs imprimeurs, même, je crois. Et on a refusé, parce qu'à cette époque, la loi anglaise punirait non seulement l'éditeur, mais aussi l'imprimeur des obscénités. Alors la chose devenait impossible.
Et c'est en 1919, sans doute, que nous avons finalement rendu le manuscrit d'Ulysse à Miss Weaver.
À la mort de Joyce, Virginia, 2 mois avant sa propre mort, se souvient.
Et puis Joyce est mort. Joyce, plus jeune que moi de 15 jours. Je me souviens de Miss Weaver, avec ses grandes laines, déposant le manuscrit d'Ulysse sur notre table à thé. Roger l'avait envoyé, je crois. Accepterions-nous de vouer notre vie à l'imprimé? Les pages indécentes semblaient si incongrues. Elle était très vieille fille, boutonnée haut, et les pages croulaient sous l'indécence. Je l'ai mis dans le tiroir du bureau. Un jour, Catherine Mansfield est venue, je l'ai sortie. Elle s'est mise à le lire, le ridiculisant, et puis tout à coup, elle a dit « Mais il y a quelque chose là. Une scène qui devrait figurer, je crois, dans l'histoire de la littérature. » Joyce existait quelque part, pas loin. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et puis, je me souviens de Tom Elliott, disant dans la chambre d'Otoline, c'était publié alors, comment peut-on écrire encore, après avoir accompli l'immense prodige du dernier chapitre? Il était, pour la première fois à ma connaissance, en extase, enthousiaste. J'ai acheté le livre bleu et je l'ai lu ici, un été, je crois, avec des spasmes d'émerveillement, de découverte, et puis encore de longues périodes d'intense ennui. Ça remonte à des temps préhistoriques. Et maintenant, toute la troupe des gentlemen fourbit ses opinions. Et les livres prennent place, je suppose, dans la longue procession.
Et ce qui étonne le plus, c'est, Virginia le note avec nostalgie, qu'elle n'ait pas rencontré Joyce, qu'elle n'ait pas désiré le connaître. Elle n'a jamais vraiment lu Ulysse en manuscrit. Elle n'a pas vraiment aimé le livre. Joyce l'inquiétait, la troublait. Et s'il y a eu des raisons, des circonstances qui ont empêché de le publier, ni Léonard, ni surtout Virginia n'ont fait beaucoup d'efforts pour les surmonter. Comme D.H. Lawrence, Joyce ne faisait pas partie de ce que Bloomsbury accueillait spontanément. C'est dommage pour Bloomsbury. Et la tristesse de Virginia, songeant à la mort de Joyce, si peu de temps avant son suicide, aura été la seule chose avec leur génie qui les ait rapprochés. Catherine Mansfield, elle, est proche, trop proche. Le problème est ici celui d'une étrange amitié que nous raconte Quentin Bell.
Entre les deux, c'était une affaire, affaire du cœur, une rivalité et en même temps une tendresse entre les deux. C'est une relation très curieuse et que je n'ai pas compris tout à fait, mais sûrement il y avait de l'amour entre eux.
Une complicité.
Oui, et un sens de confraternité.
Ah oui.
Elle croyait qu'elle pouvait parler sur la littérature avec Catherine Mansfield avec une certitude, une franchise qui était impossible avec les autres. Elle l'aimait beaucoup, mais aussi elle était jalouse.
Sur le plan littéraire, elle était jalouse et peut-être aussi de la vie libre que menait Catherine Mansfield.
Oui, aussi elle était comme un amant. Catherine ne vient pas me voir, Catherine ne veut pas me voir, Catherine n'écrit pas, etc. C'est une affaire du cœur.
Du cœur, oui. Catherine meurt très jeune, et Virginia, avec sa lucidité, sa franchise un peu cruelle, et cette sensibilité qu'elle ne peut réprimer, écrit dans son journal
16 janvier 1923. Catherine est morte depuis une semaine. À quel point vais-je obéir à son « N'oubliez pas tout à fait Catherine » lu dans ses vieilles lettres ? En suis-je à l'oubli, déjà ? Étrange de suivre le trajet de ses propres émotions. Nelly annonçant à sa façon sensationnelle vendredi au petit-déjeuner « Madame Murray est morte », c'est écrit dans les journaux. Aussitôt, on éprouve... quoi ? Un choc ? Ou du soulagement ? Une rivale en moins ? Et puis la honte de souffrir si peu. Et puis graduellement, le vide et le désappointement. Et puis une dépression dont je n'ai pu m'extraire de toute la journée. Lorsque je me suis mise à écrire, il m'a semblé qu'il n'y avait plus de raison d'écrire. Catherine ne le lira pas. Catherine, plus jamais ma rivale. Plus généreusement, j'ai pensé, mais si je puis faire ceci mieux qu'elle ne le pouvait, où est-elle qui pouvait faire ce dont je suis incapable ? Et puis, comme d'habitude avec moi, les impressions visuelles ont commencé leur défilé. Toujours Catherine se saignant d'une couronne mortuaire blanche et nous quittant, nous appelant, devenue digne, élue. Et l'on avait pitié d'elle. On la devinait réticente à porter cette couronne qui était froide, glacée. Et elle n'avait que 33 ans. Et je pouvais la voir devant moi avec une telle exactitude dans sa chambre de Portland Villas. J'entre, elle se lève très lentement, quitte son bureau. Un verre de lait, une bouteille de médicaments, des piles de romans, tout était très en ordre, brillant, un peu comme une maison de poupée. Aussitôt ou presque, nous nous sommes débarrassés de toute timidité. Elle se tenait, c'était l'été, à moitié allongée, sur le divan près de la fenêtre. Elle avait son air de poupée japonaise, avec sa frange. Parfois, nous nous regardions avec insistance, comme si nous avions atteint une relation durable, indépendante des variations du corps, à travers nos yeux. M'aimait-elle ? Parfois, elle le disait, elle m'embrassait, me regardait comme si... était-ce ce sentiment ? Ses yeux désiraient rester toujours fidèles. Elle promettait de ne jamais, jamais oublier. C'est ce qu'elle a dit à la fin de notre dernière conversation. Elle m'enverrait son journal intime afin que je le lise. Elle m'écrirait toujours. Car notre amitié était une chose véritable, disions-nous, nous regardant très droit. Ce qui est arrivé, je suppose, provenait de chicanes et de commérages, peut-être. Elle n'a jamais répondu à ma lettre. Cependant, je pense encore, en un sens, que cette amitié persiste. Il y a encore des choses à propos de l'écriture auxquelles je pense et que je voudrais dire à Catherine.
Mais, à part Virginia Woolf, l'auteur le plus important de la Hogarth Press, c'est Freud, dont chaque ouvrage depuis 1924 est aussitôt traduit et publié en anglais. C'est James Strachey, assisté de sa femme Alix, qui traduit et annote les 24 volumes, un travail colossal et dont l'appareil critique fait autorité même en Allemagne. James et Alix Strachey, élèves de Freud, ont été psychanalysés par lui à Vienne au début du siècle. Alix Strachey nous a reçus dans sa très belle maison perdue dans les bois, ou parmi les toiles de Duncan Grant, de Carrington, parmi les portraits de Lytton Strachey, son beau-frère, on imaginait si bien Virginia Woolf et ses amis. Votre mari, James Strachey, a été psychanalysé par Freud.
Psychoanalyzed by him. He said he was interested. It was the first case of analyzing a wife and a husband.
Nous avons été tous deux psychanalysés par Freud. C'est le premier cas d'une femme et de son mari psychanalysés ensemble.
Yes. But we were each very discreet.
Nous avons été tous deux très discrets. Je ne crois pas que c'était une très bonne idée. Je crois que si j'avais pensé certaines choses, j'aurais préféré les taire.
But to begin with, Freud said,
Freud disait au début ne pas vouloir nous traiter en patients, mais en étudiants. Au lieu de ne faire qu'écouter, interpréter, il nous apprenait à analyser. Mais je ne crois pas que c'était une bonne idée. Les deux choses ne se mélangent pas. Il l'a pensé lui aussi plus tard.
Voulez-vous, Alex Strachey, nous parler de Freud à Vienne, où vous l'avez connu? Je l'ai respecté et je l'aimais énormément. Il n'avait aucune prétention. Il ne prétendait rien. Il était très sévère et parfois il interprétait mal les choses. Mais il y croyait fermement. Il ne trichait jamais. Nous n'avons jamais eu l'impression qu'il fraudait. Il était facile de s'entendre avec lui, mais naturellement, en ces jours, nous avions un statut d'étudiant privilégié plutôt que de malade. Nous le voyions, nous avions avec lui des relations sociales. Il ne l'aurait pas admis plus tard. Nous prenions le thé avec lui, avec sa famille. Je crois que c'était une erreur, car si nous avions eu des pensées de haine à propos de sa famille, nous n'aurions pas osé les dire. Mais il trouvait sa famille si charmante qu'il n'a jamais songé que nous pouvions avoir des pensées de haine envers elle, comme il arrive dans la vie habituelle. En ces premiers temps, Freud, naturellement, était plutôt autocratique. Il nous a simplement déclarés membres d'une société psychanalytique britannique ou autrichienne. Pas d'examen, pas de diplôme, rien. Il a simplement dit, je veux que ces deux personnes soient intégrées. Nous sommes entrés sans effort par la grande porte.
Virginia et Leonard Woolf rencontreront Freud, alors très vieux, vers la fin de sa vie.
Nous n'avons rencontré Freud qu'une fois. Les nazis avaient envahi l'Autriche le 11 mars 1938 et cela prit 3 mois pour sortir Freud de leurs griffes. Il arriva à Londres en juin et je m'enquis discrètement sur la possibilité pour Virginia et moi de venir le voir. La réponse fut oui. Et le 28 janvier 1939, un samedi après-midi, nous sommes allés prendre le thé chez lui. Je n'ai pas l'habitude de louer les grands hommes que j'ai pu connaître. Presque tous les hommes célèbres sont décevants ou ennuyeux, ou les deux. Freud n'était ni l'un ni l'autre. Il avait une aura. Il dégageait une impression de grandeur et non pas de célébrité. Le terrible cancer de la mâchoire qui devait le tuer 8 mois plus tard l'avait déjà attaqué. Ce ne fut pas une entrevue facile. Il était extrêmement courtois, d'une façon cérémonieuse et démodée. Par exemple, il offrit presque cérémonieusement une fleur à Virginia. Il y avait quelque chose en lui qui faisait songer à un volcan éteint, quelque chose de sombre, de refoulé, de réservé. Il m'a donné cette impression que peu de gens m'ont donnée d'une grande bonté, mais d'une très grande force derrière cette bonté. La chambre où il était assis semblait très claire, brillante, propre, avec une agréable vue très ouverte sur un jardin. Son bureau ressemblait à un musée, avec les nombreuses pièces d'antiquités égyptiennes qu'il collectionnait. Il parla des nazis. Mais lorsque Virginia dit que nous nous sentions coupables, que peut-être, si nous n'avions pas gagné la guerre de 1914, il n'y aurait pas eu de Hitler ou de nazis, il répondit que non, que c'était faux. Hitler et les nazis seraient arrivés au pouvoir, et cela eût été pire encore si l'Allemagne avait gagné cette guerre. Quelques jours avant notre visite, j'avais lu le compte-rendu d'un procès dans lequel un homme était impliqué pour avoir volé des livres, parmi lesquels un livre de Freud. Le magistrat lui avait donné une amende, avait déclaré souhaiter qu'il soit condamné à lire toute l'œuvre de Freud comme châtiment. Je racontais cette anecdote à Freud. Il en fut amusé, mais d'une curieuse façon, amère. Ses livres, dit-il, l'avaient rendu infâme et non fameux. Un homme formidable.
Une tasse de thé, une fleur. Il reste de rêver à ce qu'aurait pu être une vraie rencontre de Virginia Woolf et de Freud. Parmi les problèmes auxquels se heurtait Virginia Woolf, celui de la féminité, ce continent noir dont parle étrangement Freud, semble avoir dominé. Et c'est vraiment des profondeurs qu'est surgit sa lutte pour la libération des femmes, pour leur autonomie. Demain, avec Germaine Greer pour l'Angleterre et l'Australie, Anne Thomas pour les États-Unis, Monique Wittig pour la France, nous essayerons de situer Virginia Woolf relativement au mouvement de libération des femmes.
C'était Virginia Woolf, Une femme contre les symboles, première et deuxième émission par Viviane Forester, première diffusion le 2 et le 3 janvier 1973, à suivre demain sur France Culture, la nuit.